1, 2, 3. Bonsoir, je suis Mathilde Serrel.
Et je suis Martin Kenéen.
Et je suis Nicolas Finet.
Et en chemin, nous rejoignons, courant, comme elle le peut, Kapwani Kiwanga, notre artiste canadienne et d'origine tanzanienne qui viendra nous parler de sa monographie à la ferme du Buisson et qui est en route.
Ping-pong. La culture sans limite. Oh, yeah.
Ce soir, dans Ping Pong, un manga culte et une exposition en rhizome.
Avec donc l'artiste Kapwani Kiwanga, anthropologue défroqué passé aux arts visuels qui plante à la ferme du Buisson dans le cadre de l'exposition Ujama jusqu'au 9 octobre à Noisiel en Seine-et-Marne, des plans de ricin. Elle creuse des tunnels de cisales et expose des images d'archives et les vidéos de ses performances pour mieux nous transporter dans son pays imaginaire et dans la mémoire, le présent et le futur de la Tanzanie.
Et avec Nicolas Binet, spécialiste de l'Asie au Festival de BD d'Angoulême pour la réédition d'Akira, chef-d'œuvre post-apocalyptique de Katsuhiro Otomo, supervisé par l'auteur lui-même, qui a reçu le Grand Prix Angoulême en 2015 et publié dans le Sens de lecture japonais chez Glénat. Imaran, nouvelle génération de rockers venus du désert qui joueront en live tout à l'heure.
Mathilde Serrel, Martin Kenéen, Ping Pong.
Alors, Nicolas Finet, vous êtes à nos côtés. Vous, l'auteur, l'éditeur, le consultant, le journaliste spécialiste de l'Asie contemporaine et de la bande dessinée asiatique en particulier, vous vous emmêlez régulièrement pour le festival de bande dessinée d'Angoulême. Et aujourd'hui, vous avez accepté notre invitation pour nous parler du réveil d'un monstre, on pourrait dire, comme que ça commence, comme le début de cette bande dessinée, Akira, donc de Katsuhiro Otomo, qui a été édité entre 1982 et 1990.
Au Japon.
Au Japon, sous la forme de feuilleton, puisque le manga, c'est ça, de la bande dessinée en feuilleton, en noir et blanc, dans la presse, qu'elle soit pour adultes ou pour les jeunes. Aujourd'hui, reparaît l'intégrale, avec, comme le disait Mathilde tout à l'heure, le sens de lecture japonais. Et voilà, vous venez nous éclairer un peu sur la renaissance de ce monstre. En quoi est-ce que précisément c'est un monstre, je dirais, esthétique, cette bande dessinée de Katsuhiro Otomo qui a été, on le rappelait aussi, récompensée du Grand Prix à Angoulême en 2015.
C'est un repère majeur dans l'histoire mondiale de la bande dessinée. Lorsque Otomo a entrepris ce travail, on est en 82, c'est encore un jeune auteur, hein, il a même pas 30 ans, il a 28 ans. Il est un peu connu, mais pas tant que ça, et il se lance dans cette histoire extraordinaire qui va durer, il le sait pas au moment où il l'entame, qui va durer 2200 planches. Je sais pas si on se rend compte, voilà, pour situer, hein, l'ordinaire de la production dans la bande dessinée franco-belge, un album c'est autour de 60 planches, voilà, 2200 planches, des années de travail. Alors évidemment, à la japonaise, il est pas tout seul, mais il entreprend ce travail absolument fabuleux et c'est immédiatement remarqué, ça fait l'effet d'une conflagration, et d'ailleurs j'emploie le mot à dessein, puisque en effet il imagine le scénario de ce qui se passe à Tokyo après 38 ans après le déclenchement de la Troisième Guerre mondiale.
Donc on se retrouve en 2019 et on est face à une conflagration, une déflagration aussi du point de vue du style. On dit qu'il a mis à bas, en tout cas qu'il a renouvelé, il s'est inscrit en rupture avec le grand Tezuka, donc l'inventeur du manga qui a posé les codes de cette bande dessinée.
Oui, Tezuka avant lui et d'autres, hein, Shotaro Ichinomori, d'autres auteurs avaient posé un peu les standards de ce qu'était le manga au Japon, qui était un manga tout public. Et Otomo, qui a beaucoup regardé de films de cinéma et qui a beaucoup regardé les auteurs européens, et en particulier un auteur que en France on connaît et qui est un monument, qui est Mebius, il a intégrer tout ça, redigérer tout ça. Ce qu'il faut dire, c'est que Otomo, c'est un virtuose. Graphiquement, il sait tout faire. Rien ne lui fait peur. Et d'emblée, lorsqu'il livre ce feuilleton extraordinaire, c'est tout de suite une cathédrale. Il y a rien qui dépasse. C'est impeccable. Immédiatement, je devrais pas dire rien qui dépasse, parce qu'en fait, c'est plein d'aspérités, justement. Il a une narration qui est fabuleuse, avec un rythme extrêmement cinématographique. Et puis, encore une fois, il sait tout faire. Rien ne lui fait peur. Il s'attaque à des images absolument incroyables. Et puis, il a ce que le système de la bande dessinée japonaise donne aux auteurs à cette époque et que n'ont pas les Européens, qui est la distance, la durée, c'est-à-dire qu'il s'embarque pour une histoire qui au début était prévu sur à peu près 200 planches. Et puis, comme je vous l'ai dit, ça finit par des années de boulot et une œuvre absolument titanesque.
C'est vrai qu'entre 82 et 91, donc c'est publié dans la presse japonaise. Ensuite, c'est tome par tome. Je crois que c'est 700 000 exemplaires à chaque tome
alors, c'est
publié.
C'est encore plus compliqué que ça. C'est d'abord publié en épisode, pas tout à fait en même temps, mais avec un léger décalage, ça commence à paraître en volume au Japon à partir de 84. Et il y a 6 volumes au Japon qui paraissent jusqu'en 91, en effet. Et nous, 91, c'est le moment où les éditions Glénat traduisent, mais à partir d'une version américaine. Enfin, c'est un peu compliqué, on va pas entrer dans les détails, parce que sinon
mais c'est là. Voilà. Mais c'est là que nous on le découvre,
c'est ça.
Et c'est là qu'on découvre aussi d'une certaine manière le manga, on va dire, en France et en Occident. C'est lui qui va faire découvrir le genre.
Absolument. Il y a eu quelques prémices un peu à la télévision avec des séries pour enfants de
Goldorak
ou autres, mais bon, qui sont pas ce qu'il y a de plus intéressant dans la bande dessinée japonaise. Et c'est lui qui, en effet, grâce à la traduction qui en est proposée par les éditions Glénat, d'abord sous forme de, à l'époque, c'est diffusé sous forme de feuilleton dans les kiosques, hein. C'est presque un produit de presse. Et là, il y a effectivement, c'est un séisme, parce que personne n'a jamais vu ça. Tout le monde comprend tout de suite que c'est une œuvre énorme. Et puis voilà, le phénomène Otomo est parti et c'est mondial.
Alors en quoi vous pourriez nous dire que cette histoire, d'ailleurs j'aimerais bien que vous plantiez le décor de cette histoire, donc ça démarre en 1982 avec une bombe d'un nouveau genre qui a explosé, puis...
Voilà, il y a eu la Troisième Guerre mondiale,
on comprend,
on ne rentre pas dans les détails, que presque toute la planète a été dévastée, toutes les grandes villes du monde.
Ensuite, donc on est en 2019.
Voilà, commence 38 ans plus tard, en 2019, dans une ville qui s'appelle Néo-Tokyo, qui est une ville en déréliction, hein, qui est complètement dévastée parce qu'elle tient encore debout, mais enfin on voit bien qu'il y a eu un conflit, il y a des traces absolument partout, et on suit les pérégrinations d'une bande de jeunes motards qui en fait sont plutôt des délinquants, enfin qui viennent d'une maison de correction, hein, qui sont vraiment des voyous, qui sont des types mal élevés et qui font des courses de moto la nuit
chargent avec des drogues de synthèse,
voilà, qui sont tous chargés, enfin c'est vraiment pas des enfants de cœur. Et l'un d'eux a un accident, il s'appelle Tetsuo. Lorsque l'accident se survient dans des circonstances qu'on comprend pas bien au début, et alors qu'il a un accident, il disparaît, et on comprend qu'il a été récupéré par l'armée, et que le système militaro-industriel, en fait, va travailler sur lui comme il travaille sur d'autres enfants en faisant des expériences, des manipulations. Et ça commence comme ça.
Colonel, par ici, s'il vous plaît. Nous avons répliqué l'aura de ce jeune garçon que vous avez amené ici. Ça ne ressemble à rien de ce que nous avons déjà vu.
Avez-vous commencé la comparaison avec le modèle Akira?
C'est ce que nous allons faire maintenant. Ceci n'est qu'une projection basée sur des informations diverses. C'est difficile à comparer, mais il semble que l'aura de ce jeune garçon peut être une piste pour nous aider à résoudre le mystère Akira. Il y a un certain risque, évidemment, mais nous envisageons d'utiliser la centrifugeuse du niveau 7.
Vous croyez que ça ira?
Faites-moi confiance.
Imbécile! Ce n'est pas ça que je vous demande. Si vous pouvez synthétiser ce truc d'Akira, pouvez-vous m'assurer que nous serons capables de la contrôler cette fois?
Eh bien, mais je...
J'ai l'impression qu'on ferait mieux de ne pas toucher à cette force.
Colonel, nous ne pouvons plus reculer.
Akira...
Vous êtes sur France Culture et vous êtes dans la tête de Tetsuo, donc ce jeune voyou adolescent qui a percuté par mégarde à bord de sa moto un soir de pleine nuit, de pleine lune, un enfant mutant. Il se retrouve donc dans les mains du complexe militaro-industriel japonais en 2019 et on lui découvre une aura. On découvre que lui aussi a la force. Alors on n'est pas vraiment dans la guerre des étoiles, c'est beaucoup plus obscur que cela. Tout le monde est du côté obscur dans Akira. Et voilà peut-être une des pistes, comme disait le professeur, pour résoudre le mystère Akira avec vous. vous, Nicolas Finet, c'est d'entrer dans l'histoire du Japon. Bien sûr, il y a ce bombardement atomique de 1992 dans la bande dessinée qui rappelle celui de ceux de 1945 sur le Japon. On peut rappeler aussi que le manga lui-même, ce genre de bande dessinée en feuilleton, est né en 1947, au lendemain, dans les ruines post-apocalyptiques du Japon impérial. Et puis, il y a dans peut-être aussi la présence de ces expériences scientifiques, le souvenir de ce qu'on a découvert officiellement qu'en 1981, ce sont les expériences scientifiques menées par la fameuse unité 731.
Voilà, qui s'est produite en Chine, bien sûr. Effectivement, bon, on peut rentrer là-dedans par l'histoire. Hein. Otomo est né en 1954. Et Katsuhiro Otomo, il a connu le Japon de la reconstruction, donc un Japon dans lequel la vie n'était pas facile du tout. Et puis évidemment, comme tous les Japonais de ces générations, il a été traumatisé par le bombardement atomique. Et donc tout ça a fait son chemin. Je pense qu'est arrivé par là-dessus des influences qui viennent de ses lectures, puisque à l'époque on a toute la science-fiction américaine qui a aussi beaucoup écrit sur le monde, sur les conséquences de la bombe. Et à l'époque, toutes les, jusqu'au début des années 80, hein, on vit dans la peur de la bombe. Et donc, ça a énormément marqué toutes ces générations et tous ces artistes. Donc, Otomo redigère tout ça. Alors, effectivement, il s'inscrit immédiatement dans une génération qui va régénérer le manga et qui, alors que Tezuka avait initié un nouveau genre, va apporter une façon nouvelle de travailler. Et puis, sur le plan des thématiques, bah, évidemment, c'est toute la crainte de ce complexe militaro-industriel, parce que ce qu'on comprend assez vite, pas tout de suite, mais ce que l'on va comprendre au fur et à mesure de la lecture d'Akira, c'est qu'en fait l'armée essaie de mettre au point de nouvelles armes qui sont des enfants manipulés, qu'on pourrait dire presque transgéniques, hein, alors en utilisant la chimie, etc., en transformant ces enfants qui vont acquérir des pouvoirs dont on comprend pas tout de suite de quoi il s'agit. Il y a de la télékinésie, il y a des pouvoirs extrêmement puissants, et le Akira, qui donne son titre à toute la saga, et lui-même un gamin, vraiment un môme, un petit garçon.
Lui, l'enfant aux allures de vieillard dont parlait
Voilà,
Martin.
Qui a des pouvoirs absolument démesurés. Et lui, si l'armée comprend assez vite que s'il ne garde pas le contrôle des manipulations qu'ils sont en train de faire, là, on peut littéralement courir le risque que la planète entière soit détruite. Voilà. Donc c'est toute cette thématique-là. Donc on est dans une réflexion très adulte, hein, sur la bande dessinée comme outil de récit du réel et comme outil d'anticipation d'un réel qui à l'époque pose problème. Hein, voilà. Et donc Otomo fait tout ça. Et puis alors il le fait évidemment avec des outils esthétiques et narratifs qui sont absolument éblouissants. Et c'est pour ça, pour toutes ces raisons cumulées, que c'est une œuvre qui, je pense, même aujourd'hui, est restée sans équivalent.
Rester culte, c'est un chef-d'œuvre. Donc, effectivement, vous le redisiez, hein, c'est marqué par la situation comme ça post-nucléaire du Japon. C'est vrai que ça commence en 82 avec une bombe d'un nouveau genre, cette BD. Mais il y a quelque part, par rapport à cette bombe qui est lâchée par les États-Unis, une phase B des comics américains qui est proposée dans Akira. Parce que c'est vrai que quand on pense au Captain America qui est resté congelé pendant des années avant de se réveiller, de redevenir ce grand soldat patriote cryogénisé à super pouvoir, il y a un peu de ça chez Tetsuo qui se réveille, mais peut-être l'envers que nous raconterait...
Finalement, on Akira. Pourrait presque dire que c'est l'envers et l'avers d'un même phénomène, c'est les super-héros. Alors avec l'Amérique a mis au point des super-héros plutôt positifs, et dans Akira, on a des super-héros qui sont potentiellement super négatifs. Alors ce sont des enfants, donc c'est pour ça que c'est très très habile aussi, parce qu'il y a il suscite quand même l'empathie, parce qu'avec des enfants, ben voilà, personne n'a peur, a priori personne n'a peur d'enfants, mais sauf que ce sont des enfants qui ont été tellement abîmés par ce que leur font, c'est subir ces scientifiques et ces militaires, qu'ils font quand même froid dans le dos, et on devine qu'ils sont à un moment capables de tout, comme c'est le cas de ce Tetsuo, voilà, dont on va suivre également le parcours, et qui est un peu l'astre noir de toute cette saga.
Qui est un des motards, donc juste en deux mots, qui se réveille.
Qui se rêve, qui se, enfin, que l'on voit capturé par les, enfin kidnappé par les militaires et que l'on voit transformé en une créature de plus en plus maléfique. Et celui qui lui apporte la contradiction est un autre de ses camarades qui s'appelle Kaneda, qui lui incarne plutôt
le courage,
le voyou qui reste positif, qui reste voilà le courage et qui va tout au long de cette, parce que c'est une extraordinaire aventure aussi. C'est au niveau de l'action, c'est inouï ce que fait Otomo. Donc tout le long, on est constamment dans un film. Enfin, il y a un rythme haletant, ça n'arrête jamais. Et ça se transforme en une espèce de course-poursuite entre Kaneda d'un côté, qui serait un peu l'incarnation positive, et puis ce Tetsuo, qui est de plus en plus incontrôlable et de plus en plus maléfique.
Alors, Caponi Kiwanga vient d'arriver dans le studio. Bienvenue, installez-vous tranquillement. On va faire un petit voyage dans le temps avec un discours de Julius Nyerere, président de la République tanzanienne de 1964 à 1985 et père du socialisme africain.
Nous n'avions pas d'industrie. Un pays ne peut se développer, ne peut être moderne sans industrie. Vous ne ferez que ramasser du coton pour ces sales types. Ramasser le coton et couper les cannes à sucre fut l'une des causes de l'esclavage, qui emmena tant d'Africains en Amérique. C'est un dur labeur que de ramasser le coton et de couper les cannes à sucre. Aujourd'hui, nous sommes indépendants. En 61, nous étions indépendants. Allons-nous continuer à ramasser du coton et à couper des cannes à sucre? Installons des usines pour produire le coton ici.
Julius Nyerere, président tanzanien et père du Ujamaa, utopie politique qui donne son nom à l'exposition que vous présentez à la ferme du Buisson. Caponi Kiwanga, bonsoir. Je vous dis bonsoir quand même. Vous êtes donc canadienne d'origine tanzanienne, vous vivez à Paris. Et dans cette première grande monographie, vous interrogez l'histoire pré- et post-coloniale, notamment avec cette figure de Julius Nyerere et son Ujamaa, lancé après l'indépendance. Ça veut dire en swahili familiarisme, je crois, littéralement. Ça a laissé le pays assez exsangue. Quel récit vous faites de cette figure de Nyerere dans cette exposition? Est-ce qu'on peut parler plus que d'histoire de l'art, d'art de l'histoire? Caponi Kiwanga.
Donc, merci déjà pour l'invitation. Je suis très contente d'être parmi vous.
On va murmurer votre enfant parce que vous avez un nouveau-né oui. Dans les bras.
Deux semaines.
Qui va aussi peut-être ajouter des choses. Donc, du coup, Julius Nyerere est une des figures qui est assez importante dans cette expo. Il y a un autre qui est Kinjekitele Ngwale, qui part de la période avant le colonialisme.
Un guérisseur dont on parlera tout à l'heure.
Tout à fait. Donc, du coup, il y a ces deux figures qui sont assez importantes dans cette exposition. Et donc, Julius Nyerere était assez important pour moi comme quelqu'un qui a apporté, bien sûr, cette idée de socialisme tanzanien, très particulière à la Tanzanie.
Donc plus tanzanien qu'africain.
Oui, vraiment, c'est très spécifique à la Tanzanie. Donc, du coup, on peut voir le socialisme chez Nkrumah, par exemple, à Ghana, qui est un autre type. Donc, c'est chaque personne a apporté leur propre style de socialisme. Et il était assez important pour Nyerere aussi de dire que c'était fondé sur des traditions propre à la Tanzanie. Ça, c'était sa manière de apporter des choses et de pas faire une généralisation de le socialisme africain, même si c'était aussi une figure assez importante dans le panafricanisme.
Oui.
Donc, du coup, il y avait cette idée de réunifier les différents pays africains ou tout le continent. Et après, je dirais d'autres pays aussi sur des mêmes fondamentales ou des idées socialistes. Mais il était très, très spécifique de dire que c'était vraiment la Tanzanie le point de départ. Et du coup, une de ces, comment on peut dire ça, une de ces constructions de l'Ujamaa, c'était vraiment de se concentrer sur l'agricole. Donc, du coup, c'était un programme de réunifier les paysans dans les villages et de, comme ça, de pouvoir mener l'éducation, la santé, l'eau propre, etc. Parce que les paysans sera, du coup, tout unifié ensemble. Et en même temps, d'essayer d'augmenter la production agricole pour que la Tanzanie aura une économie et pour aller plus vers l'autosuffisance. Par contre, l'idée de Ujamaa, finalement, n'a pas pu avoir autant de succès qu'il a cru. Et elle avait envie pour le pays. Mais c'est pour ça que j'étais intéressée par cette figure aussi, même si cette idée a fait faillite, il a pu donner une croyance, un espoir à ce moment après indépendance. Un peu comme la première figure, Kenji Kitele Ngwale, qui aussi était une figure qui apportait l'espoir et qui se donnait cet espoir à partir d'une croyance en Tanzanie. Donc ces deux figures étaient assez importantes dans mon travail pour cette idée de croyance qui revient souvent dans mes expositions et aussi des croyances plus larges, donc c'est-à-dire spirituelles jusqu'à politiques. Et donc ces deux figures font deux parties de cette croyance et espoir en Tanzanie.
Kapwani Kiwanga, vous le dites, au sein du continent africain, à l'heure des indépendances, chaque État, chaque leader a pu avoir son propre style et sa propre construction, selon vos propres mots, pour inventer l'Afrique du présent et l'Afrique de demain. Et vous, à l'intérieur du, je dirais, du paysage esthétique tanzanien qu'on peut connaître à travers les styles Tinga Tinga, par exemple, qui sont très colorés, avec des animaux, avec des paysages, ou les fameuses sculptures Makonde ou Zaramo, qui sont deux des peuples qui proposent des œuvres, notamment du bois sculpté, très réputé. Comment est-ce que vous êtes approprié cette tradition esthétique et comment vous la réinvestissez, sachant que par ailleurs, peut-être une des caractéristiques de l'art tanzanien, c'est qu'il a presque disparu, parce qu'à la fois, il y a eu la modernité. Donc on a évacué cette histoire de l'art, et puis parce qu'il y a eu les pillages des marchands occidentaux qui font disparaître tous ces objets.
Mais c'est, il faut être honnête que j'ai quand même une esthétique assez occidentale, on peut dire ça, en tant que Canadien.
Vous êtes né au Canada, vous avez fait vos études là-bas.
Et voilà, grandi là-bas, et aussi maintenant en Europe. Donc du coup, moi je trouve que l'esthétique que j'essaie d'apporter, déjà c'est une esthétique qui prendre un peu de mes racines, on peut dire ça entre guillemets, dans l'académie, c'est-à-dire j'ai fait une formation universitaire, où l'esthétique plutôt de recherche, de mettre en avant le documentaire, le document, l'archive, est plus important presque que cet héritage esthétique tanzanien, qui, pour moi, les Tinga Tinga, etc., pour moi, ça reste assez intéressant. Quand même un style qui, quand même, il faut dire aussi, était créé et promouvoir par le tourisme. Mais le travail aussi sculptural de Makonde, par exemple, qui est assez intéressante, même si ces sculptures aussi sont aussi beaucoup augmentées, on peut dire ça entre guillemets, par les questions de tourisme. C'est aussi, ça fait référence à quelque chose qui m'intéresse aussi, encore ces croyances, que la Makonde était assez connue en Tanzanie pour la croyance spirituelle et magique assez importante. Donc il y a quelque chose dans les sculptures Makonde que je trouve assez intéressante, qui était plus conceptuellement présente dans mes réflexions quand j'ai fait une des installations dans la ferme de Buisson, une installation qui s'appelle Yuhuru Nikazi, mais on ne remarque pas dans la forme. C'est plus le concept, il y a des sculptures qui aussi sont dans un style Ujama, où on voit plusieurs personnes qui sont tissés entre eux, en fait, leurs jambes,
Jama, c'était cette fameuse utopie politique, de communauté agricole.
Oui, d'ensemble, en fait. On peut dire peut-être Jama, c'est l'ensemble, ou de vivre ensemble. Et du coup, cet style Makonde, de cette sculpture Makonde, où les jambes, les figures se tissent entre eux. C'est aussi un ensemble de peuples qui créent une économie, un pays, etc. Mais c'était assez important dans cette installation que j'ai fait comme concept, où j'ai pris des vidéos d'un vidéaste canadien qui s'appelle Gerald Belkin et qui a interviewé, qui a vécu pendant 2 ans dans un village Ujama, et qui interviewait les gens qui habitaient, qui laissaient parler librement de leur expérience du Ujama, 10 fois critique, 10 fois qui posaient des questions de qu'est-ce que ça veut devenir cette idée politique et utopique entre guillemets. Mais il y avait cette question d'ensemble, de tous ces voix qui se tissaient ensemble, un peu comme cette figure de sculpture Ujama. Donc du coup, c'est plus dans le concept que ces esthétiques tanzaniennes apparaissent que dans la forme elle-même.
C'est vrai que votre formation, vous le disiez au passage, mais quand même, il faut le rappeler, sur le plan académique, il y a des études d'anthropologie et de religion comparées, d'abord à l'université McGill à Montréal au Canada, puis ensuite vous faites le Frénois, le studio national d'art contemporain en France. Donc vous passez de la recherche en sciences sociales à la recherche en sciences visuelles. Quelle est votre approche, on va dire, subjective dans ce travail-là? Justement, qu'est-ce que vous cherchez à proposer comme récit aux gens qui vont voir l'exposition à la ferme du Buisson et qui vous suivent depuis, parce que vous êtes exposé quand même, il faut le rappeler, partout dans le monde. Hein.
Donc c'est vrai que la subjectivité est assez importante dans ma façon de travailler. Je pense que c'est aussi un héritage de ma formation anthropologue, où il y avait un moment dans l'anthropologie où on essaie de laisser à côté cette idée d'une objectivité scientifique et d'écrire des rapports de field work, on dit en anglais, d'études anthropologiques, avec un point de départ subjectif. Donc du coup, c'est vrai que il y a un moment dans mon travail, je pense que vers 2009, où j'ai fait un travail où je me suis mis devant la caméra pour la première fois. Et à ce moment-là, il y avait un déclic un peu dans mon travail où moi, je me suis rendu compte qu'il y avait tellement de recherches, tellement de choses que j'avais fait derrière la caméra, hors champ, etc., qui n'étaient pas accessibles aux visiteurs ou aux spectateurs, que le moment que je me suis mis devant et je me suis dit, bon, écoutez, je vais raconter une histoire, mon histoire, et je serai votre guide dans cette histoire très subjective. À partir de ce moment-là, mon travail a pris un peu plus d'accessibilité, je pourrais dire peut-être ça comme ça.
Nicolas Finet, là on parle de la subjectivité de Kapwani Kiwanga, disons peut-être un mot de celle de Katsuhiro Otomo, donc l'auteur de la bande dessinée et du film dont on écoutait un extrait, Akira. On n'est évidemment pas dans l'art contemporain et des œuvres parfois conceptuelles, on est dans les images dérisoires, puisque c'est la traduction qu'on peut donner du mot manga. On est dans ces bandes dessinées en noir et blanc, rééditées en intégrale par Glénat. Ça serait quoi la subjectivité Otomo?
De dire que il a toujours voulu faire que ce qu'il voulait et que on l'a reçu à Angoulême il y a quelques semaines, clairement placé au-dessus d'ailleurs de tous les autres
auteurs.
Il a fait une conférence publique qu'il avait jamais donnée nulle part ailleurs. Et il a dit, et les questions lui ont été posées dans la salle, de qui vous vous inspirez, de qui vous vous revendiquez. Il a dit, moi j'ai regardé les autres, mais j'en tiens pas grand compte. Voilà, il a son monde, il a son univers, et il a ce perfectionnisme de dire, je vais essayer d'en rendre compte le mieux possible. Mais après, c'est mon univers à moi, Otomo, et bon, voilà, j'essaye pas de raconter que c'est une vérité. Voilà.
À chacun son Otomo.
Voilà.
1, 2, 3.
Vous écoutez Ping Pong sur France Culture, l'émission qui apprécie la singularité, la subjectivité et l'orgueil des artistes.
Mais aussi le surnaturel et la magie à suivre avec nos invités Kapwani Kiwanga et cet enfant que vous entendez aussi parfois entre-temps. Nicolas Finet.
Nicolas Finet.
Finet.
Et tout de suite.
Vraiment, j'y arrive pas. Hein. Je bloque.
C'est pas Zoé Sfez, c'est Zoé Sfez pour le Journal de la Culture. Bonsoir Zoé.
Bonsoir Martin, bonsoir Mathilde.
Bonsoir
Zoé. Zoé, vous consacrez ce soir votre dossier à ce rapport de l'inspection du travail commandé par la mairie de Paris qui date de 2015, mais qui ne fait parler de lui que depuis quelques semaines. Il cristallise les tensions déjà vivaces entre la mairie de Paris d'un côté et les professeurs de conservatoire de l'autre. Un rapport de l'inspection du travail donc commandé par la maire Anne Hidalgo et qui recommande de limiter les cours individuels dans les conservatoires afin d'éviter les situations présentant un risque d'infraction sexuelle sur les mineurs.
Oui, alors en fait, c'est très étrange que ce rapport qui a été commandé par Anne Hidalgo, donc en 2015, l'année dernière, n'ait ressurgi finalement que lors du dernier Conseil de Paris. Il avait en fait été commandé d'ailleurs et demandé en grande partie à la demande de l'opposition, donc par les Républicains, dans un contexte général de suspicion d'une trentaine d'abus sexuels sur les mineurs par des agents des différentes directions de la ville de Paris, pas du tout uniquement dans la culture, ni donc dans les conservatoires. Les Républicains, et notamment le conseiller de Paris Thierry Audan, en charge de la culture dans l'opposition, dit alors que, effectivement, effectivement, c'était son groupe qui avait en partie été à l'initiative de ce rapport, ne pas l'avoir reçu lors de sa publication. Et lorsqu'il le découvre, c'était finalement simplement au mois d'avril dernier, il découvre ce passage qui concerne les conservatoires et qui dit, je cite, que les enseignements en conservatoire, les cours individuels sont considérés comme, je cite, porteurs de risques de dérapages importants qui s'inscrivent dans la durée de rapports de proximité, et de séduction et d'un contexte musical marqué par une banalisation des relations sexuelles et amoureuses entre maître et élève. À ce moment-là, le rapport précise que cette banalisation fait référence à des relations entretenues par d'illustres musiciens et musiciennes et en cite d'ailleurs quelques-uns dans sa première version, version qui a depuis été changée puisque les noms ont été ensuite extrêmement regardés par la presse. Thierry Audan, donc conseiller de Paris et Les Républicains, explique sa surprise devant cette suspicion généralisée envers la profession.
On a été amené à en prendre connaissance en avril 2016, tout à fait par hasard. Hein. Donc ce rapport en main et en le lisant, on s'est aperçu que donc, le rapport faisait état de possibles possibilités de pédophilie. C'était une des raisons pour supprimer les cours individuels. Qui venait comme par hasard justifier ou tout au moins consolider la position de la maire de Paris et de son premier adjoint Bruno Julliard concernant l'arrêt des cours individuels. Qui est d'ailleurs concomitant à celui des centres d'animation. Puisque aujourd'hui, alors c'est pas la même direction, hein, puisque les centres d'animation dépendent de Pauline Véron, qui est adjointe à la participation maire de Paris, qui elle va supprimer les cours individuels aussi dans les centres d'animation.
Et ce texte donc qui fait penser à ce qui peut se passer par exemple outre-Atlantique, dans voilà la suspicion entre dans le milieu enseignant, et bien fait bondir les enseignants, Zoé, et intervient dans un contexte déjà tendu entre la mairie et la profession.
Oui, alors il faut le rappeler, l'État a largement réduit sa subvention au conservatoire. Il y a à peu près 32 millions d'euros en moins cette année, enfin en tout cas peu ou prou pour les conservatoires. Et dans ce contexte, à peu près tout le monde essaye de faire à peu près la même chose avec moins, avec beaucoup moins d'argent, et la mairie de Paris, eh bien, effectivement, le fait beaucoup, alors qu'on sait qu'en plus, à Paris, la demande pour les conservatoires explose. La ville avait d'ailleurs déjà proposé des réformes pédagogiques pour aller vers plus de cours collectifs, pour qu'effectivement, on ait plus d'élèves. Et elle avait aussi installé cette mesure de tirage au sort pour que, à peu près, tous les élèves soient traités équitablement. Les rapports, donc, entre la profession et la mairie sont déjà extrêmement tendus. Donc, chez les profs, en fait, on est choqué d'une part par ce soupçon généralisé que le rapport fait peser sur la profession, mais aussi par la sensation qu'on a un peu l'impression qu'il s'agit là d'un prétexte pour avoir plus de cours collectifs. Bruno Julliard, le premier adjoint à la culture, qui a quand même des rapports extrêmement tendus avec toute cette profession, a fini par répondre, mais dans une lettre, pour essayer de rassurer cette profession. Le ton de la lettre n'a pas convaincu François Frémaux, il est professeur de trompette au conservatoire d'Ivry. C'est lui qui dirige l'Association nationale des enseignants de discipline artistique.
Non, on n'est pas satisfait, puisqu'il n'y a donc pas d'excuse qui est formulée. Il se dédouane en disant que l'inspection générale a commis un rapport indépendant de la mairie. Il rappelle que le but n'était pas de porter atteinte aux personnes alors qu'une célèbre pianiste a été nommée dans ce rapport qui a été deux jours ensuite caviardée suite à la sortie dans la presse. Enfin, il ne s'excuse pas des termes employés, notamment du terme « banalisation » qui a choqué tous les professeurs parce que ça laisserait entendre qu'une grande majorité des professeurs ont des relations sexuelles avec leurs élèves. Et si tel est le cas, en effet, la mairie de Paris doit engager des actions en justice rapide et efficace. Et si ce n'est pas le cas, il s'agit d'une diffamation. La nécessité de protéger les mineurs usagers des services de la ville de Paris, bien sûr, elle est primordiale. Pour autant, les propos tenus dans ce rapport qui indique qu'il y a une relation de séduction et une banalisation des relations sexuelles entre les profs et les élèves sont extrêmement choquants, ont choqué toute une profession.
Et dans sa lettre, Bruno Julliard s'engage, Zoé, à ne pas supprimer les cours individuels comme le proposait le rapport.
Oui, alors il indique que les cours collectifs seront plus utilisés qu'avant, mais qu'il ne s'agit absolument pas de remplacer les cours individuels par les cours collectifs. Alors pour Thierry Audan, le conseiller de Paris, Les Républicains, il s'agit quand même d'une petite victoire, puisqu'en sortant ce rapport, il a obligé finalement Bruno Julliard à se prononcer. Pour les professeurs aussi, même s'ils disent qu'ils veulent rester extrêmement vigilants.
Le cours collectif en soi, l'ANEDA ne mène pas un combat contre le cours collectif puisque c'est un outil pédagogique utile dans certains cas, non efficace ou non approprié dans d'autres, notamment pour certains instruments ou certains niveaux. Le cours de collectif à 6 pianistes en même temps, c'est quand même assez compliqué. Il s'agit d'un cours collectif à 6 violons ou 6 trompettes, c'est autre chose. Par ailleurs, l'ANEDA est très attentive à ce que la pédagogie de groupe qui a été théorisée par les sciences de l'éducation garantisse un temps C'est-à-dire que un cours d'un élève en premier cycle dure une demi-heure, donc une pédagogie de groupe avec trois élèves de premier cycle dure une heure et demie. Donc on va faire très attention à ce que la pédagogie de groupe ne soit pas un moyen de diminuer les heures d'enseignement pour les enfants parisiens, puisqu'on sait que la mairie de Paris n'arrive pas à répondre à la demande, puisque trop d'élèves font des demandes dans les conservatoires par rapport au nombre de cours qui sont ouverts.
Voilà, l'autre solution préconisée par le rapport et qui pourrait être retenue par la mairie de Paris pour limiter effectivement les possibilités de rapprochement et d'infraction sexuelle, ce serait de remplacer toutes les murs des conservatoires par des parois vitrées. Les professeurs rappellent que dans les nouveaux conservatoires, c'est comme ça, évidemment, que les couloirs sont construits, mais que s'il fallait remplacer tous les murs des anciens conservatoires existants et par justement des cloisons vitrées, ça coûterait très cher alors que l'argent manque. Et on n'est pas tout à fait sûr que ce serait forcément efficace.
Place au bref, vous voyez un point trafic médiatique.
Oui, avec le projet de distribution exclusive des chaînes beIN Sport par Canal+, qui risque d'échouer en raison des conditions imposées par l'autorité de la concurrence. C'est ce que rapporte en tout cas le journal Les Échos ce lundi. Le quotidien précise que le gendarme de la concurrence devrait rendre en milieu de semaine, je cite, un verdict qui imposerait des conditions extrêmement difficiles à accepter par Canal+, la filiale de Vivendi, qui avait justifié en février son accord avec beIN Sport, son grand concurrent, par les pertes du numéro 1 français de la télévision payante. Je rappelle que ce rapprochement est l'une des clés de la stratégie de Vincent Bolloré pour la chaîne cryptée.
Jia Zhangke, désigné comme nouveau vice-président de la CISAC, la Confédération internationale des sociétés d'auteurs et de compositeurs, a annoncé son arrivée.
Effectivement, alors le but pour la CISAC, c'est de se rapprocher de la Chine, grâce à Jia Zhangke, acteur de plus en plus puissant au niveau du cinéma. Et par ailleurs, le musicien français Jean-Michel Jarre, qui est président depuis 2013, a été reconduit pour un nouveau mandat de 3 ans. 3 des 4 autres vice-présidents élus en 2013, à savoir la chanteuse béninoise Angélique Kidjo, le réalisateur argentin Marcelo Pinheiro et le sculpteur sénégalais Ousmane Sow ont été eux aussi reconduits.
Ping-pong. Merci Zoé, on va repartir au début du XXe siècle où une sorte de panoramix tanzanien distribue des potions. Il s'appelle Kenjeke Tikele Ngwale. Il a fait l'objet d'un texte signé Ebrahim Hussein, interprété par des comédiens. On écoute.
Au tukubaliane hivi. Utapopanga watu kwa ajili ya vita. Fanya kama hakuna kitu kama maji. Panga watu kwa nguvu zao. Wasende ovyo ovyo kutegemea maji. Niahidi katika hili.
Mimi siwezi kuahidi kwenye hilo. Ninaamini maji. Au uniambie kwamba maji hakutoa hongo. Uliyatoa wewe na umetudanganya.
Siku moja zaidi.
Haiwezekani. Siwezi. Njoo ongee na watu wewe mwenyewe.
Kiwanga, vous avez enregistré, lorsque vous étiez en Tanzanie lors de vos voyages, cette petite scène qui est extraite d'une vidéo où l'on retrouve donc des étudiants au théâtre à l'université de Dar es Salaam en Tanzanie. C'est l'ancienne capitale de la Tanzanie. Et vous avez décidé donc de montrer cette vidéo parce que c'est l'une des figures que vous présentez à la fin de l'émission. On a parlé tout à l'heure de Julius Nyerere, mais l'autre figure, c'est donc ce guérisseur. Je l'ai appelé panoramix tanzanien parce que c'est vrai que c'était une sorte de potion magique qui distribuait, qu'il était censé empêcher l'envahisseur allemand d'agir, ou en tout cas lutter contre lui. Donc il s'appelle Kenjeke Tikele Ngwale. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous êtes emparé de ce mythe et pourquoi c'est l'une des figures que vous avez choisies, si ce n'est la deuxième plus importante dans cette exposition à la fin du buisson?
On a parlé tout à l'heure de subjectivité, donc il y avait une histoire qui était racontée par mon père il y a longtemps, et j'écoutais qui parlait de la guerre magie-magie. J'ai pas prêté très attention, et puis plus tard, quand je faisais la lecture, j'ai rencontré de nouveau cette histoire de guerre magie-magie, qui a eu lieu entre 1905 et 1907. Et du coup, cette figure de Kenjeke Tikele Ngwale arrive, il distribue cette potion magique, qui en fait, c'est l'eau, magie en Swahili, ça veut dire l'eau. Et du coup, j'ai retrouvé cette figure à travers, après avoir entendu parler de mon père, après d'avoir lu sur cette personne-là. Donc j'étais intéressée par lui, comme j'ai expliqué tout à l'heure, parce qu'il a réussi à unifier plusieurs peuples avec une croyance entre guillemets traditionnelle qui était partagée par différents peuples à travers cette idée d'eau. Donc d'une manière différente, mais quand même similaire de Nyerere, lui aussi est arrivé à unifier différents peuples sur une idée, un espoir de nouvelles sociétés, comme Kinji Keteli et Ngwale aussi avaient aussi proposé une nouvelle structure sociale, c'est-à-dire de liberté sans dominance coloniale.
Julius Nyerere, donc, c'est le président de la Tanzanie post-indépendance dont on a parlé tout à l'heure. Là, on a donc la figure de ce guérisseur, Kenji Keteli Ngwale. Mais Kaponi Kiwanga, si vous avez décidé de le faire apparaître, c'est pas du tout de manière littérale. Vous avez une manière d'aborder les choses très mixte. Je veux dire, il y a des plantes qui sont une nurserie de plantes. Ce récit, on va dire, surnaturel de la plante, vous le faites à votre manière. Est-ce que vous avez aussi une manière vivante, on va dire, d'aborder cette anthropologie artistique?
Tout à fait. Il y a une partie organique beaucoup dans mon travail qui est importante, c'est le flux, le fait que des choses ont des cycles, mais aussi dans pas mal d'installations que je fais, il y a aussi cette notion de, qu'on a besoin de prendre soin de quelque chose, bon, dans ce cas-là, les plantes, mais aussi des idées de faire reparaître ou reparler des idées pour discuter, échanger, pour qu'ils vivent. On peut pas juste les laisser dans les documents, les archives, il faut les réactiver. Donc il y a cette idée de comment on peut dire ça, de vivant dans ce que j'essaie de faire dans mes installations. Donc dans cette expo Ujamaa à Ferme de Buisson, bien sûr, il y a cette grande partie organique à travers des plantes, cette installation qui s'appelle Nursery, mais aussi dans une autre partie de l'exposition, il y a aussi des plantes de ricin qui sont des plantes qui étaient supposées faire partie des ingrédients de cette potion magique de Kinji Keteli, qui sont aussi présentes. Donc on a deux plantes, partie plante végétale, on peut dire ça, dans l'expo. Et une autre partie végétale dans l'exposition, qui est une grande installation de fibres de sisal.
Ah oui,
ce fois-ci,
un tunnel de sisal.
C'est ça, c'est un grand tunnel de sisal. Ce fois-ci, ce n'est pas des plantes, mais voilà, des fibres qui étaient décortiquées d'un cactus qui s'appelle la agave. Voilà.
C'est de l'or blanc, le sisal.
Voilà. Nicolas Finet, la nature, l'écologie tout du moins compte pour beaucoup dans l'histoire du manga japonais. Vous êtes à nos côtés ce soir à l'occasion de la réédition de l'intégrale d'Akira par Glénat. Donc Akira, on le disait dans la première partie de cette émission, c'est un, sinon le chef-d'œuvre du manga japonais et voilà le manga par lequel toute cette culture a déferlé sur la France en particulier il y a maintenant 25 ans. Alors plutôt que la nature dans ce Japon post-apocalyptique et très urbain du Néo-Tokyo d'Akira, on est dans la surnature, avec la présence de cette force qui habite les enfants mutants tripatouillés par les savants fous du complexe militaro-industriel. Et puisqu'il y a une lecture politique de la nature et de la surnature chez Kapwani Kiwanga, est-ce qu'il n'y a pas aussi une lecture politique à faire de ces enfants, de cette jeunesse japonaise qui, avant d'être comme ça corsetée dans le système professionnel, académique de la société japonaise, représente la rébellion, la révolte et l'imaginaire?
Alors, il y a cette dimension-là, effectivement, mais je dirais que aussi au-delà de ça, ce qui hante Akira, c'est l'idée de la catastrophe. Et ça, c'est très japonais, parce que lorsqu'on est japonais et lorsqu'on est dans toutes les manières dont ça s'écrit, lorsqu'on l'idée de naissance, on est dans un environnement qui est dangereux, dans une nature qui est très menaçante, parce que le péril sismique est partout. Et peut arriver n'importe quand, hein. On l'a encore vu relativement récemment avec le tsunami. Et ça imprègne l'âme japonaise très très en profondeur. Et il y a énormément de mangas dans lesquels cette idée-là c'est sous-jacent. C'est-à-dire il y a quelque part la peur de la catastrophe qui pourrait peut-être être finale. Il y a un manga qui est basé sur l'idée que le Japon se casse en deux à la suite d'un séisme majeur et que littéralement le pays est cassé en deux. Donc ça, c'est très très récurrent dans l'âme japonaise, mais pas seulement dans le manga. Je pense qu'on peut en retrouver trace dans la littérature, dans le cinéma, etc. Et effectivement, sous cet angle-là, le travail d'Otomo rend compte aussi de cette peur-là, avec l'idée sous-jacente que ça peut vraiment dérailler très très gravement.
Et d'un mot, dire aussi peut-être que comme Kapwani Kiwanga nous parle de son art comme d'un art vivant, elle manie et construit des œuvres vivantes, on peut dire aussi qu'on a affaire à une matière vivante avec Akira, parce que c'est d'abord une bande dessinée qui paraît en feuilleton, c'est ensuite un dessin animé, et aujourd'hui reparaît cette intégrale avec une nouvelle traduction, un nouveau sens de lecture, des nouvelles onomatopées.
Voilà, avec une nouvelle traduction qui est bien, qui est vraiment remise au goût du jour, avec en effet le respect des onomatopées qui sont très importantes dans la manière de raconter les histoires au Japon, et puis avec la restitution de sens original de lecture. Bon, en fait, c'est pas le sens japonais, parce qu'au Japon, il n'y a pas de sens de lecture. On peut lire de gauche à droite, de droite à gauche, de haut en bas. Simplement, c'est une convention qui s'est établie dans le monde de l'édition de bande dessinée, qui fait qu'aujourd'hui, depuis un moment déjà au Japon, c'est dans ce sens-là qu'on publie. Et effectivement, l'éditeur français, ce qui n'était pas le cas, là, a remis ça dans le sens original de lecture tel que ça avait été publié au Japon. Et puis, on sait que Otomo a suivi cette nouvelle édition vraiment de façon extrêmement scrupuleuse. Et je le
c'est
connais
l'auteur,
un peu.
Hein.
Voilà. Et Otomo, je le connais un peu. Il est d'une extraordinairement exigeant, extraordinairement scrupuleux. On peut être sûr que s'il a suivi cette nouvelle édition, c'est vraiment conforme à ce qu'il souhaite.
Ping-pong. La culture sans limite.
Et à présent, eh bien, place au disque du jour, Mathilde.
Après le Japon et la Tanzanie, direction le nord-ouest de l'Afrique, à la frontière entre l'Algérie et le Niger, du côté de Taman Rasset, où ont grandi et joué une bande de rockers du désert, Imaran. Ça veut dire ceux qui s'aiment et se côtoient avec sincérité, en langue touareg, en tamashek. Eux, ils se sont côtoyés avec amour et sincérité dans les fêtes de mariage. Pendant des années, ils ont joué de leur percussion et de leur guitare électrique, avant de faire tourner leur musique sur tous les CD piratés de toutes les jeeps du Sahara. Le premier album, il est produit par le bassiste de Tinariwen, autre grand groupe de blues en électrique au Sahel. Ça s'appelle Imaran. La chanson est aussi éponyme, Imaran, et c'est en live pour nous. Ping Pong. L'album s'appelle Imaran. Il est sorti du côté de chez City Slang, le label du musicien électronique Caribou, si vous connaissez. En tout cas, on entend absolument ce son qui est organique et presque électronique avec Imaran à suivre. Bientôt de retour en France à l'automne.
Et même surnaturel. Ping Pong.
C'est déjà fini.
Grand merci à toutes et à tous, Kapwani Kiwanga, Nicolas Finet et le groupe Imaran. Kapwani Kiwanga, donc cette grande exposition qui vous est consacrée pour la première fois, une grande monographie, elle est en France, à la Ferme du Buisson à Noisiel, en Seine-et-Marne. C'est Oujama jusqu'au 9 octobre. Quant à vous, Nicolas Finet, non content d'être venu commenter cette intégrale d'Akira qui reparaît chez Glénat, vous êtes le directeur d'un ouvrage essentiel, Dico Manga, publié chez Fleurus, un dictionnaire encyclopédique de la bande dessinée japonaise commis avec une bande de voyous motards amateurs de drogue de synthèse.
Le ping-pong est un petit voyage radiophonique qui se fait en équipe. Quelle équipe ? À la rédaction Aïssatou Ndoye, Hélène Delis et Mathilde Cadreau. À la réalisation et la programmation musicale Thomas Beau. À la prise de son ce soir Yanis Judad et Alex Dong.
Mais quid de notre beau mardi, Mathilde ?
Demain, du polar vengeur dans ping-pong avec Diamant Noir réalisé par Arthur Harari et le thriller historique de Jean-Claude Deray pour Fordlandia.